On parle
de tout.
De tout.
On parle de tout.
De tout. C'est fou, non?
De tout.
Et surtout
de ça.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Sainte-Afrique dans l'émission On parle de tout et surtout de ça, avec aujourd'hui comme invitée Eléa. Bonjour Eléa.
Bonjour Marion.
Donc tu es ici pour pouvoir nous parler un peu de médiumnité, car c'est ton travail.
Absolument.
Tu es médium.
Oui.
Donc est-ce que tu peux nous déjà te présenter un petit peu et puis nous expliquer en quelques mots ton parcours?
Très bien, je vais essayer de résumer en quelques lignes. Alors, effectivement, je suis médium, thérapeute, donc, puisque la médiumnité s'inscrit comme un don, mais néanmoins, elle a une fonction, à remplir, et l'adaptation de cette fonction, en fait, se met dans le cadre d'une pratique, en cours de consultation, en cours de séance, avec une ligne directrice qui va être donnée par rapport aux séances, en fait. Voilà. Mais ça, je l'expliquerai peut-être un petit peu plus tard dans le cadre du déroulement d'une séance.
Exactement, plus en profondeur après.
Voilà.
Et donc, ton parcours, comment est-ce que ça a commencé, tout ça?
Alors, la médiumnité, c'est une grande histoire, une longue histoire, et peut-être même une histoire qui a commencé avant cette vie-ci. Ensuite, il m'a fallu aussi accepter cette médiumnité et la comprendre, savoir ce qu'elle voulait dire, comment, ce à quoi elle pouvait servir aussi. Donc tout ça, c'est un parcours qui dure depuis le plus jeune âge, sachant qu'au départ, j'étais comme beaucoup d'enfants le sont maintenant d'ailleurs, avec... un sens de l'éveil, on va dire, approfondi, mais aussi, évidemment, beaucoup de sensibilité, d'émotionnalité et d'imagination. Et du même coup, c'était un petit peu difficile de faire la part des choses entre ce qui pouvait être abstrait ou concret.
Donc, tu tiens cette... j'ai pas envie de dire don, parce que ça ne me semble pas juste, mais ce potentiel en toi, depuis que tu es né. Tu serais né avec ça.
Alors, oui... Absolument. Après, on n'a pas tous la même histoire. La médiumnité peut aussi intervenir chez une personne dans le cadre d'un traumatisme. Ça peut arriver aussi, ce qui n'est pas mon cas. Ça a été réactivé par des traumatismes, mais ça n'est pas arrivé suite à un traumatisme.
J'ai déjà entendu parler de personnes qui reviennent d'un accident de voiture, qui ont eu un coma.
Absolument.
Et qui se réveillent de ce coma-là en voyant... des esprits, en entendant des choses.
Oui, la plupart du temps, elles ont vécu ce qu'on appelle une NDE, en fait. C'est-à-dire qu'elles sont parties, effectivement, en visite de l'autre côté, sur l'autre rivage, où elles reviennent avec des souvenirs.
Donc, c'est ce qu'on appelle des morts imminentes, pour ceux qui ne connaissent pas le terme.
C'est ce qu'on peut appeler des expériences de mort imminente.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand, théoriquement... Du point de vue médical, on est mort et puis en fait...
On n'est pas, véritablement, au niveau de la conscience,
c'est
tout
ça.
Du moins.
Et en fait, on se réveille, pour ceux qui ne connaissent pas ces termes.
Oui, et c'est d'ailleurs parce qu'on s'est réveillé et qu'on est revenu qu'on peut en témoigner.
Oui, tout à fait. Et il y en a d'ailleurs de plus en plus.
Oui, mais il y en a toujours eu. La seule chose, c'est que ça n'était pas dit, ça n'était pas communiqué. Et il y a un écrivain américain qui s'appelle Moody, qui a beaucoup fait à ce sujet-là. Et son ouvrage a permis justement à ce que d'autres personnes puissent porter témoignage.
Donc, pour ton cas personnel, tu serais plutôt née avec cette aptitude de médiumnité?
Alors, oui, mais ça a quand même été réactivé par des périodes de vie, on va dire, qui ont peut-être exacerbé et qui ont permis justement que je puisse être plus en lien avec cette partie de moi.
Tu es médium à donner des séances depuis très longtemps? Tu as toujours fait ce métier-là?
Alors, on va dire que dans le cadre de quelque chose qui est plus structuré comme une consultation, on pourrait dire une dizaine d'années. Voilà. Mais par avant, c'était de l'ordre de l'intuition, de la télépathie, d'expérience, qui s'inscrivait dans ma réalité, en fait. C'était... Pas dans un cadre donné.
C'était plus du personnel que du professionnel.
Tout à fait.
Comme ce qu'on peut dire, un hobby ou quelque chose comme ça.
Non, c'était des expériences que je vivais. Et je me disais, oh là là, mais c'est étrange. Pourquoi tu as eu ce ressenti? Pourquoi le lendemain, ça se passe? Pourquoi... Voilà.
Je suppose que ce que tu dis là, ça doit parler à beaucoup de personnes.
Très certainement, bien entendu.
Beaucoup de personnes qui se disent toujours, ah, c'est bizarre, je fais des rêves étranges qui se réalisent, ou ces impressions de déjà vues.
Complètement.
Donc ça, c'est quelque chose dont on parlera aussi
bien sûr.
Un peu plus longuement, un peu plus loin dans l'émission.
Tout à fait.
Ce que je propose, c'est après cette petite présentation que tu nous as faite, c'est de faire une petite pause musicale pour pouvoir après entamer le sujet un peu plus profondément. Donc je vous propose d'écouter David Bowie, Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? C'était David Bowie, Live on the Mars, sur Radio Centrafrique. Vous êtes bien dans l'émission On parle de tout et surtout de ça avec Eléa, qui nous parle aujourd'hui de son métier, qui est être médium. Nous avons juste avant fait une présentation pour ceux qui nous prennent en route, et nous allons maintenant pouvoir attaquer le vif du sujet. Et j'aurai une question très simple, en même temps très, très complexe, je pense, à répondre, qui est « Qu'est-ce que la médiumnité, Eléa ?»
Ah oui, en effet, vaste sujet. Alors, on pourrait considérer que la médiumnité, de la manière la plus concise pour la définir, je dirais, c'est un moyen de communiquer, en fait, entre différents plans vibratoires, on dira.
Alors, différents plans vibratoires, est-ce que oui. C'est possible de nous expliquer ça avec des mots
Je vais essayer.
On peut peut-être voir ça comme des couches d'oignons ?
Non, pas véritablement. Les couches d'oignons, on pourrait les voir, par exemple, pour expliquer le corps physique et les corps subtils. J'emploie souvent cette expression de dire couches d'oignons, effectivement, parce D'accord. que tous les corps sont interreliés, l'émotionnel, le mental, le causal et le corps physique. Mais en ce qui concerne la médiumnité, c'est l'accès à différents plans. Et ça, j'y tiens beaucoup, puisque c'est de par mon expérience. Hein, de toute façon, tout ce que je vais communiquer aujourd'hui, ce n'est que mon expérience. Et entre guillemets, je ne peux valider que ce que je connais.
Et c'est très voilà. bien, c'est ce qu'on attend.
Voilà, et c'est aussi mon mode de fonctionnement dans la médiumnité, parce que effectivement, on palpe l'invisible, mm-hmm. et donc on a souvent des notions abstraites. Et donc, j'ai voulu valider et structurer mes séances, justement, pour rentrer le plus possible dans du concret. Donc, la médiumnité, c'est la possibilité d'entendre, de voir, d'accéder à des messages qui sont transmis par un égrégore, en fait. L'égrégore étant une forme pensée active qui peut être présentée, par exemple, par une reliance de guide bienveillant qui murmure, en fait, à l'oreille du médium.
D'accord. Donc, un égrégore.
Oui.
Ce serait un amas d'énergie, donc représenté par des pensées émises.
Alors, l'égrégore, c'est ça, c'est un amas d'énergie, des formes pensées. Là, c'est différent. Là, quand j'emploie le terme égrégore, je veux par là même dire une puissance vibratoire qui permet l'accès. D'accord. C'est-à-dire que le médium, lui, monte en vibration. Les guides qui se trouvent sur le plan vibratoire pour communiquer au médium, mm-hmm. eux, accèdent à cette vibration. Et par là même, ça crée un courant électrique, en fait, comme une onde radio, par exemple, qui permet justement l'envoi d'éléments, l'envoi d'informations. Donc informations, je vais les capter de différentes manières et je vais pouvoir les retransmettre et les communiquer au consultant ou à la consultante.
Donc ce serait comme un canal de communication.
C'est exactement ça, c'est un canal, effectivement. Qui agit avec des fréquences, tout simplement.
Donc, entre le médium et oui. donc un égrégore qui est...
Un plan. Pas un égrégore, forcément. Un plan.
Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cette
un
notion...
Un plan vibratoire.
De plan vibratoire. C'est comme plein d'ondes radio différentes et simplement...
Exactement. Ça s'explique très bien par la physique quantique, mais je ne suis pas physicienne. Mais il y a des physiciens qui développent ces théories et qui les expliquent très bien. Et mm-hmm. Il y a un champ électromagnétique, en fait, par lequel il est possible, justement, d'accéder à d'autres plans que le plan qui s'inscrit dans notre matérialité. C'est-à-dire qu'il existe une interrelation entre différents mondes. Mm-hmm. La seule chose, c'est que nos sens ne sont pas suffisamment aiguisés, notre conscience n'est pas suffisamment éveillée pour qu'on puisse avoir encore complètement accès à ces autres mondes.
D'accord.
Certaines personnes qui ont des potentialités développées extrasensorielles, comme la médiumnité ou autres, mm-hmm. peuvent avoir accès, justement, par moment, à ces plans-là.
Donc c'est par moment, en plus, tu insistes bien sur ça, c'est pas quelque chose...
C'est-à-dire que si on le vivait en permanence, certaines personnes le vivent, hein, la médiumnité en permanence, souvent ils sont parasités parce que du même coup, ils s'inscrivent quand même, ils n'ont pas que ça à faire, je veux dire. Ça peut être justement une problématique que peuvent rencontrer certaines personnes qui peuvent être parasités parce que tout le temps en train de recevoir des informations. C'est possible ça.
Hein. D'accord.
Oui, c'est pas mon cas. Hein. Oui. Moi, je le gère très bien. J'appuie sur le bouton, c'est on ou off. Hein.
Ça, c'est super pratique.
À part en cas d'urgence.
Où là, tu n'as pas le choix.
Où là, on ne me laisse pas forcément le choix.
Quand il y a un message à faire passer.
Exactement, quand le message doit s'inscrire dans une réalité très proche, mm-hmm. Autant pour l'individuel que pour le collectif. Là, je n'ai pas le choix.
Alors, c'est peut-être un peu cliché la question que je vais te poser, mais oui. Par exemple, tu croises quelqu'un dans la rue,
oui.
Tu vas avoir un message, même si tu ne connais pas cette personne, tu oui. vas devoir l'arrêter pour lui
oui.
dire un message.
Absolument. D'ailleurs, au tout départ, en fait... Quand quelque part c'était l'heure que je m'intéresse de plus près à cette potentialité-là, on me faisait vivre ces expériences-là. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décidais, puisque c'était pas cadré par séance. Mm-hmm. C'était pas moi qui décidais de cette fonction. Et effectivement, c'était complètement imprévisible. À l'époque, j'avais un atelier, en fait, une boutique. Et certains clients rentraient et je recevais des messages pour eux. Alors que ce n'était vraiment pas les circonstances et le lieu pour ça.
C'est sûr.
Mais lorsqu'il y avait urgence, que les messages soient passés, j'étais poussée à le faire et donc à tout de suite valider les informations que je recevais avec la personne. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai compris quel était le sens justement de cette potentialité en fait.
Et donc, dans ces moments-là, donc c'est une source d'énergie. Donc, toi, tu travailles avec les êtres de lumière, il me semble.
Oui, oui, bien entendu.
Et donc, ce sont eux qui viennent utiliser ce canal pour te transmettre.
Oui,
et
que pour transmettre aux consultants à travers moi, en fait.
D'accord.
Pourquoi je dis que c'est le plan des lumières, des guides de lumière ? Parce qu'ils sont toujours dans la bienveillance, dans l'amour, dans la lumière, en fait, hein. Voilà.
D'accord.
C'est toujours pour tirer le plus possible vers le haut, la personne dans son parcours de vie.
Le but pour toi, du moins dans ce que tu fais, dans la manière dont tu utilises la médiumnité, c'est de pousser les gens à l'évolution.
Non, c'est à leur propre évolution déjà.
Sur leur chemin spirituel.
Sur leur chemin, absolument, sur leur mission de vie. C'est-à-dire, à travers la séance, il va y avoir un éclairage qui va être donné à la personne et qui va lui permettre déjà de se reconnaître sur son parcours. Et c'est bien pour ça que, en consultation, je commence toujours mes séances par faire ce que j'appelle un test de validation. Mm-hmm. C'est-à-dire que je remets à la personne uniquement avec son prénom et sa date de naissance, des éléments de vie passée et présente qu'elle me reconnaît et qu'elle me valide par oui ou par non. À la suite de ça, ça ne dure pas très longtemps, c'est ce que j'appelle une prise de température. Mm-hmm. À la suite de ça, la séance peut avoir lieu d'un commun accord entre les deux parties, bien évidemment. Donc, en fait, la médiumnité, elle paraît comme ça impalpable, mais j'ai essayé de mettre en place une structure, justement, pour que la personne se sente rassurée aussi et qu'elle sache bien que c'est bien d'elle dont il s'agit. Donc ça va être très important. Et moi, de savoir eh bien, que nous sommes bien entourés, accompagnés et que la séance peut avoir lieu.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, je vais recevoir des informations qu'on va me donner, mais suivant le sens, enfin, suivant la... comment dire... suivant le sens que ça peut prendre dans la réalité, de façon... C'est pas n'importe quelles informations du passé ou du présent qui vont m'être communiquées. Ce sont des informations qui sont encore résonance avec le présent de la personne, de façon à ce qu'elle aille vers son futur, en tirant tous les profits possibles, hein, en fait.
En fait, ce sont les choses à guérir ou à dépasser que tu vas recevoir.
Oui, parfois oui, effectivement. Effectivement, ça peut être des blocages qui sont là... qui appartiennent au transgénérationnel, qui appartiennent à plan karmique aussi parfois. Mmh. Et parfois, il suffit justement que la personne se sente accompagnée par rapport à cette problématique pour que ça lui paraisse plus léger.
Oui, voilà. Simplement que ça passe de l'inconscient au conscient.
Absolument. Oui, et puis quand ça passe de l'inconscient au conscient, je vais amener des informations concrètes qui crée blocage et expliquer véritablement ce qui crée blocage, en fait.
Ok.
Oui.
Et pourquoi est-ce qu'on va voir une médium ? Est-ce que c'est parce qu'on a simplement une question sur son travail, sur les amours ? Enfin, dans quel cas est-ce qu'on va voir une médium ? Dans quel cas est-ce qu'on va te voir, toi ?
D'accord. Alors après, je te répondrai que chacun définit ses priorités comme il le peut. Mm-hmm. Néanmoins, souvent, en ce qui concerne les séances... J'ai des personnes qui viennent pendant une heure de temps et pour lesquelles rien n'est défini à l'avance. Voilà. C'est-à-dire que même si elles choisissent, elles, de venir avec telle ou telle question, moi, je vais leur demander qu'elles ne me disent rien du tout. Parce que c'est vraiment une séance pendant laquelle je vais passer les messages, les informations. Et petit à petit, en fait, c'est comme un tableau qui se dessine petit à petit. Il y a des zones qui vont être mises en relief. La personne se reconnaît à travers ces zones-là, dans ses problématiques de vie ou dans ses priorités. Et par rapport à ça, elle a un éclairage qui est positionné. C'est-à-dire que, je cite un exemple tout bête, quelqu'un qui est dans une relation affective, par exemple, qui ne lui correspond pas. Les guides, en fait, vont amener, par rapport à cette personne, vont exposer la situation déjà. Ensuite, vont amener des choses relativement profondes de la personne elle-même, sans jugement, bien entendu. Et pour expliquer pourquoi, justement, ça n'est pas possible. Il y a toujours beaucoup de détails, de précisions qui sont fournis, en fait.
D'accord. C'est plutôt rare, non, chez les médiums, en général. C'est plutôt quelque chose qui est assez vague. Et toi, c'est plutôt dans la précision.
Tout dépend des médiums. Il y a tout un tas de médiums possibles et inimaginables, en fait. Je veux dire, et puis chacun travaille un petit peu comme il le sent, comme il le peut, je dirais.
Tout est question de feeling.
Ben, oui, aussi, mais pas seulement. Tout est question aussi de conscience. Oui, principalement de conscience, je pense.
Et donc après une séance, ça se déroule comment ? Avec toi. Donc, tu me dis que tu fais la prise de température.
Oui.
Après...
Oui, ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a le plan des guides et il y a le plan des personnes qui sont parties. Je dis toujours parties, pourquoi ? Il s'agit des personnes qui sont passées de l'autre côté, donc qui ont quitté ce monde. Moi, je dis parties parce qu'il arrive souvent qu'en séance, elles puissent se manifester. Donc, c'est ce qui s'appelle la médiumnité spirit. D'accord. Je suis médium pur. Pur, ça veut dire que je n'utilise aucun support physique. Je n'utilise pas de jeu, je n'utilise pas d'oracle. C'est par la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience que je peux transmettre les informations. La clairaudience, c'est la capacité d'entendre, en fait. C'est-à-dire que je vais entendre des prénoms, des phrases, des lieux.
D'accord.
En même temps que j'entends, on me donne à voir. Et quand on me donne à voir, on va me donner des images qui sont très précises. J'ai même les couleurs. Ça peut être des déroulés, comme des scènes de film, par exemple. Et tout ça, le son, l'image et le ressenti, la clairsentience. C'est-à-dire que, en même temps que j'ai le son, l'image, j'ai le ressenti. Ce qui me permet de définir émotionnellement pourquoi on m'envoie telle ou telle image.
Donc, quand tu dis...
C'est une histoire qui se met en place, en fait. Et je raconte le film. Et l'acteur principal, c'est le consultant.
Et tu ressens, du coup, les émotions que la personne Absolument. A
oui,
vécues.
Oui. Ah oui, oui, oui. Donc, tout à fait.
C'est comme si tu t'appropries... Enfin, pendant quelques minutes, secondes, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, tu t'appropries une
Ça dure
scène.
Le temps de la séance.
C'est tout le temps de la séance.
Oui, absolument. Sinon, ça ne serait pas de la médiumnité. Sinon, je ne serais plus dans cet état vibratoire qui permet.
Donc, en fait, toi, pendant toute une séance, tu es dans un état...
Oui, de transe,
modifié.
En fait. Absolument. État modifié de conscience.
Et tu te rappelles de ce qui s'est passé ?
Jamais.
Jamais.
Je ne me souviens jamais, parce qu'en fait, ça fait intervenir une partie qui ne fait pas intervenir le mental. Et du même coup, ça ne s'inscrit pas dans ma mémoire directe. C'est-à-dire que je dis toujours aux personnes, surtout enregistrez votre séance, parce qu'une fois que je vous parle, j'aurai tout oublié. Et même parfois, pendant que je parle, j'oublie. Parce que je reçois les informations. Je les transmets, je les reçois. Donc, c'est double fonction. Et j'en reçois plusieurs en même temps. Parfois, quand j'en oublie une, parce qu'il y en a trop, ils me font des rappels. Alors ça, c'est bien, parce que là-haut, ils savent faire. Donc, s'il faut absolument passer le message, j'aurai le rappel. Par contre, moi, après, pour faire un suivi de consultation, ce n'est pas possible.
Oui, c'est comme si vraiment, à ce moment-là, tu n'es, entre guillemets, que canal et tu n'es plus Eléa.
Disons que je m'efforce d'être actrice et spectatrice, parce que j'ai une mission à remplir, je vais la remplir du mieux possible. Mais ma fonction demande à ce que je transmette, et quand je transmets, je suis sur une fréquence qui ne me permet pas d'être partout à la fois.
D'accord. Et donc, tu parlais de médiumnité pure et de médiumnité spirit.
Oui.
Est-ce que tu peux un petit peu plus nous expliquer les différences ? Comment est-ce qu'on utilise l'une et l'autre ? Dans quel cas ?
En fait, j'ai beaucoup de mal à différencier les deux, puisque la médiumnité spirit fait partie de la médiumnité pure. La médiumnité pure, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est la possibilité de communiquer sans support physique. Mmh. C'est-à-dire sans jeu, sans aide extérieure, que sa propre guidance, en fait, que l'on reçoit.
Simplement avec ses sens.
Oui, avec ses extrasens ou sens plus développés ou de nouveau développés. Voilà.
D'accord. Mmh. Et la médiumnité spirit ?
Ben, c'est la possibilité d'être en lien avec les personnes qui sont parties de l'autre côté et qui, elles, souhaitent appuyer le consultant. Ça peut être ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent qui, à ce moment-là, va me communiquer un prénom. Je vais ressentir donc sa présence. Je vais pouvoir signifier qu'il est là, donner son prénom, expliquer la manière dont il est parti. Souvent, il donne beaucoup d'anecdotes, mm-hmm. en fait, ce qui permet de les reconnaître. Et du coup, la personne va se sentir véritablement accompagnée par rapport à son entretien, parce qu'elle est venue elle-même chercher un éclairage à porter sur son parcours de vie. Mm-hmm. Et le fait de se savoir accompagner aussi, ça permet vraiment, ça fait beaucoup de bien, en fait.
Ça fait un peu comme dans les films, ce que tu nous racontes quand... On voit la personne...
Comme dans Ghost, par
voilà,
exemple.
Voilà, c'est ça,
oui,
qui est partie.
À part que je ne me transforme pas
non.
visuellement.
Bon, dommage.
Non, pas dommage.
Et comment ça se manifeste ? Ce que tu dis que tu ressens. Donc, tu vas sentir une présence, tu vas avoir une image, tu vas avoir des
oui,
sons.
Oui, alors je peux donner une anecdote, par exemple, mm-hmm. au tout début. Hein. Donc pour moi, ça a été très surprenant, cette histoire-là. En fait, j'étais pas du tout en séance, puisqu'à l'époque, je n'étais pas cadrée dans le cadre de mon activité principale. J'étais en situation de travail dans l'atelier que j'avais, et je fermais mes volets, donc, et j'étais seule. Et là, je ressens et je vois une personne qui se présente à moi. Et cette personne me dit « Je m'appelle Jean », donc j'ai le prénom de suite. Et c'est très clair hein, quand les informations sont données, c'est très clair, très précis. Hein. J'ai aucune hésitation en fait. Hein. Et cette personne est habillée avec un costume d'époque. Mm-hmm. Donc, et de son pantalon, il me sort une montre à gousset en fait. Il me la montre comme ça, il la remue. Il y a un grand sourire qui s'émane de lui, beaucoup de gaieté. Et il me dit, c'est pas si grave toute cette histoire. Et il s'en va. Il me dit, ma fille, tu deviens complètement folle. Évidemment, je me suis posé la question. Je me suis dit, voilà, là, c'est quand même un peu étrange. Mais quand des choses comme ça m'arrivaient, en fait, je n'avais que la volonté de comprendre pourquoi elles arrivaient. Et je savais très bien que si elles arrivaient, ce n'était pas parce que j'étais en train de perdre la tête, mais parce que je devais vivre ces expériences et les comprendre. Donc, je me suis rendue à la personne la plus proche qui était à côté de moi à ce moment-là, qui était ma voisine de l'époque, qui avait une boutique juste à côté, mm-hmm. qui s'appelle Sophie, et je vais la voir. Et je lui dis, elle savait un petit peu que je recevais des informations, comme ça pouvait m'arriver. Donc, et je lui dis, écoute Sophie, là, j'ai un message, je pense qu'il est pour toi, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Jean? Et là, elle me dit, oui, mon grand-père s'appelait Jean. Et bon, ok. Je lui dis, bon, on va s'asseoir et je vais t'expliquer. Et lorsque je lui ai donné, quand je lui ai relaté, elle s'est assise et elle m'a dit, mais c'est quand même incroyable ce que tu me dis là, parce que c'est toute l'histoire de ma famille, en fait. Mm-hmm. Donc, son grand-père, qui s'appelait Jean, avait plusieurs enfants, dont le papa de Sophie, qui était le fils aîné. Et au moment de son décès, il y avait un héritage. Et ce n'est pas le fils aîné qui a eu cette montre, cette fameuse montre. Donc, le papa de Sophie ne l'a pas eu. Et comme il ne l'avait pas eu et que c'est revenu au fils cadet, il a quitté son village natal. Mmh. Donc, ça a beaucoup imprégné sur son existence même. Voilà, ça, c'est un exemple de ouais. comment ça peut être manifesté, en fait, pour dire ça n'est pas la peine de garder des choses qui vont nous empêcher d'avancer, en fait. Il faut se libérer. Voilà, souvent, ils viennent avec ce message-là. Il faut se libérer.
Oui, et puis c'est très beau, le grand-père qui dit en secouant la montre, c'est pas grave.
Et voilà, ouais, c'est tout
beau.
À fait ça.
En tout cas, sur cette belle anecdote, je vous propose de faire une petite pause musicale pour après pouvoir expliquer un petit peu plus tout ce qui est potentialité, ressenti, enfin voilà. petit peu qu'on puisse comprendre ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Donc je vous propose d'écouter Madre Ayahuasca de Diego Palma.
Madre Ayahuasca, muéstranos caminos, pintando visiones con un buen destino. Madre Ayahuasca, muéstranos caminos, pintando visiones con un buen destino. Madre Ayahuasca, muy agradecida, santa medicina que cura a la tribu. Madre Ayahuasca, muy agradecidos, santa medicina que cura.
C'était Madre Ayahuasca de Diego Palma sur Radio Saint-Afrique. Donc aujourd'hui, dans On parle de tout et surtout de ça avec Eléa, nous parlons de médiumnité. Donc juste avant, tu nous as expliqué ce qu'était la médiumnité, qu'il y avait plusieurs sortes de branches dans ce domaine.
Oui.
Et maintenant, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment sait-on si nous sommes médiums ou pas. Si déjà c'est possible de l'expliquer.
Oui.
Bon.
Alors, je vais tenter. Disons que il y a une sensibilité, une émotivité, un émotionnel qui est souvent très sensible, et en ligne directrice une intuition, ce qu'on considère être l'intuition, mais qui est quand même la petite voix que l'on est tenté parfois d'écouter quand même, ou pas d'ailleurs. Hein. Mais souvent, quand on l'écoute pas, on s'en rend compte tout de suite.
C'est vrai.
Voilà.
Ça arrive.
D'où... Et plus on l'écoute, et plus on va aussi recevoir d'informations.
Donc pour toi, cette petite voix dont tu nous parles, ce serait un guide ou un être de lumière qui serait en haut de notre canal,
oui,
pour nous glisser des informations et nous aider à aller sur notre droit chemin.
Oui, 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 ça peut tout à fait être présenté de cette manière-là, puisque nous sommes accompagnés sur ce parcours de vie qui n'est pas toujours facile.
Donc effectivement, on ferait mieux d'écouter plus souvent cette petite voix.
Tout à fait.
C'est noté. J'espère que je ne suis pas la seule à l'avoir noté d'ailleurs.
Tout à fait.
Donc tu parles de sensibilité. C'est vrai qu'on a tendance à dire souvent de certaines personnes qui sont émotives, elles sont sensibles. Et effectivement, en général, j'ai remarqué que ces personnes-là avaient une intuition assez développée.
Oui.
Donc pour toi, ce seraient des personnes qui auraient en potentiel de la médiumnité ?
Complètement, mais pas forcément uniquement. Ça peut être, c'est souvent relié aussi au côté artistique. Voilà, c'est le fait de pouvoir être dans un état second qui permet... qui permet la réception d'informations. Par exemple, les artistes, lorsqu'ils sont inspirés, il y a de très grands poètes, des musiciens, on peut considérer qu'ils ont de la médiumnité dans leur génie, par exemple, dans leur possibilité de capter des informations incroyables et de mettre en place des compositions extraordinaires.
Donc ça pourrait être intéressant d'analyser, par exemple, des tableaux de personnes comme ça.
Oui, aussi. Oui, oui, complètement.
Et que ressent-on quand on est médium ? Parce qu'on entend quand même souvent des personnes qui sont dans leur chambre le soir seules et qui disent « J'ai l'impression qu'il y a des gens dans ma chambre, je ne me sens pas seule. »
D'accord. Alors oui, effectivement. Étant donné, comme je l'expliquais en première partie, différents plans sont interreliés. Donc, suivant les potentialités de chacun, on peut être amené à être en contact aussi, parfois, avec des esprits qui, eux, souhaitent se manifester. Alors, la personne n'a pas forcément envie que cette manifestation se mette en place, mais elle peut effectivement être mise en place à son insu même. Parfois, si on accède, par exemple, si on change de logement et que dans ce logement on se sente pas bien, et puis d'un seul coup il y a des bruits, et puis on sent qu'il y a une certaine pesanteur ou une différence de température dans certaines pièces. Il y a des indices comme ça qui permettent de...
Des ressentis palpables.
Ouais, exactement. Tout à fait.
Et donc quand on ressent ce genre de choses, c'est qu'on est médium ?
Non. Alors, ça ne veut pas dire quand on ressent ce genre de choses qu'on est médium. Ça peut être aussi... qu'on perçoit ces manifestations parce que on a une sensibilité, mais ça peut être aussi parce qu'on a quelque part aussi la possibilité d'aider ces âmes à regagner la lumière.
D'accord.
Voilà. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle entre guillemets des passeurs d'âmes qui commencent leur histoire en fait en étant, on va dire, un petit peu effrayés, embêtés parce que ils se sentent parasités à longueur de journée et leur énergie ainsi.
C'est vrai que j'ai déjà vécu, moi, personnellement, des choses comme ça.
Beaucoup de personnes.
Des mains dans les cheveux.
C'est ça.
Des doigts qui glissent le long de la colonne vertébrale.
Oui, c'est pas agréable, c'est tout ça.
Même à me réveiller avec des bleus. j'ai pas forcément apprécié.
Oui.
Avant d'accepter ça et de le vivre pleinement.
Oui. Mais durant toute cette période-là, en fait, cette acceptation, tu as aussi mûri en conscience, tu as appris, tu as évolué, et du même coup, tu t'es transformé, tu as accédé à des potentialités que tu avais en toi et qui t'ont aussi éveillé, et qui te permettent peut-être maintenant, justement, de pouvoir élargir tes champs d'action. Tu vois, il y a une évolution, en fait.
Oui, oui, c'est sûr.
Ouais.
C'est sûr. Mais je me rappelle très bien la période où je vivais ça et où je le vivais très mal.
Ah oui. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui peuvent se couper du même coup, effectivement, d'une possibilité d'être médium parce que c'est un enfer pour eux que de vivre de la manière dont ils vivent ce lien.
Et quand on a cette potentialité, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à le vivre bien ?
Alors, il faut savoir que si la personne n'est pas bien dans son émotionnel, dans son mental, ça va être compliqué. C'est-à-dire que plus le taux vibratoire sera élevé de la personne et plus elle sera en lien avec des plans vibratoires hauts. C'est aussi simple que ça. Donc, suivant la configuration émotionnelle, suivant l'état d'esprit dans lequel on se trouve, suivant le lieu, il y a tout un tas de paramètres, en fait, qui vont être pris en considération.
C'est un peu comme j'ai déjà entendu dire, on attire ce qu'on est.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Donc, si on n'est pas bien, qu'on vibre plutôt bas, on va attirer des choses qui sont plutôt basses, plutôt pas négatives, parce que je trouve que c'est fort comme, comme mot, mais moins sympa.
Absolument.
En tout cas, que des êtres de lumière où là, ça vibre beaucoup plus haut.
Oui, tout à fait.
Donc, ce que tu conseillerais pour des personnes qui peuvent ressentir ce genre de choses, les mains dans les cheveux, des sensations physiques d'être poussée ou des prénoms, des choses comme ça, tu conseillerais d'aller quand même vers des choses qui poussent vers le haut, donc de la méditation, de la relaxation?
Oui, bien entendu. Oui. Et s'ancrer à la terre aussi beaucoup, aller marcher, se nourrir correctement, nourrir ses pensées, travailler sa conscience. Et aussi d'essayer de comprendre pourquoi elles vivent. Parce que la plupart du temps, comme elles ne comprennent pas ce qu'elles vivent, du même coup, elles restent enfermées dans les peurs. Le fait d'avoir connaissance d'eux et de savoir qu'il y a des solutions pour éviter d'être parasitées, ça permet quand même de sortir un petit peu aussi de ce carcan-là, quoi.
C'est vrai que ce n'est pas évident, quand on vit ce genre de choses, de trouver les bonnes personnes à qui en parler.
Oui, mais la vie est quand même bien faite. Et si on est à l'écoute, les bonnes personnes viennent sur le chemin.
C'est ce qu'on appelle les synchronicités.
Absolument.
D'accord. Et ben, c'est tout un programme, du coup, pour travailler sa médiumnité. Et est-ce qu'on peut réussir à travailler ça chez les enfants? Parce que c'est vrai que les enfants, ils captent quand même beaucoup de choses.
Alors, les enfants... Surtout les enfants actuellement, j'en rencontre souvent en séance d'ailleurs, qui viennent accompagnés bien sûr de leurs parents. Et le fait de pouvoir en parler, de dire, eh ben, d'en parler avec les parents, dans le cadre d'une consultation en fait, déjà ça les libère beaucoup. Parce que la plupart du temps, alors c'est souvent sous forme de dessin. Moi, je leur demande souvent de dessiner, puisqu'ils ont plutôt l'âge de s'exprimer par le dessin. Et le fait de se sentir écouté, bien souvent, ça résout les problématiques. C'est-à-dire, je leur précise tout le temps, ben, écoute, tu peux communiquer avec cet esprit et lui dire, je ne souhaite pas être dérangée.
Ça suffit.
Ça suffit souvent.
Même pour les adultes.
Pour les adultes aussi. On n'a pas toujours conscience de toutes nos possibilités, y compris la possibilité de dire non, je ne veux pas.
Donc ça, c'est très intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent,
ben,
qui ressentent des choses dans leur maison ou ailleurs.
Bien sûr.
N'hésitez pas, que ce soit à voix haute ou dans votre tête, de dire là, je n'ai pas envie, laissez-moi tranquille.
Oui, absolument, si la personne sent que ce n'est pas juste pour elle.
Et comment on fait quand on sent qu'il y a quelque chose à faire, mais qu'on ne sait pas quoi? Parce que tu parlais du passage d'âme.
Oui.
Comment est-ce qu'on sait qu'on doit faire passer une âme de l'autre côté?
On ne le sait pas forcément.
Donc en fait, tant qu'on ne l'a pas compris, on a une âme qui va continuer de nous suivre jusqu'à ce qu'on comprenne.
Tout à fait. Il y a des personnes pour qui ça a été l'expérience, en fait, de le vivre de cette façon-là, jusqu'à ce qu'elles comprennent.
Qu'il faut faire quelque chose pour cette personne.
Qu'elles peuvent faire quelque chose.
D'accord. Et est-ce que tu as peut-être une technique ou deux pour peut-être aider les gens qui sont dans cette situation?
Dans la situation du fait de
devoir faire un passage d'âme?
Ah, alors, ce n'est pas du tout... ça ne s'inscrit pas, moi, dans ma propre expérience. Parce que les personnes qui sont parties... se manifestent à moi, mais qu'elles ne sont pas dans le cadre de l'errance, en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer ça.
Oui.
Du coup, je n'ai pas eu à vivre cette expérience, en fait, qui n'est pas agréable. Je suis de suite passée à des choses agréables. Par là, j'étais assez chanceuse, je dirais. Mm-hmm. Mais il existe des personnes dont c'est la qualification, entre guillemets, qui ont vécu ces expériences et qui savent très bien expliquer en fait et donner des solutions de façon à vivre mieux.
Donc en gros, il vaut mieux aller voir quelqu'un pour peut-être apprendre ou qu'on nous explique.
Oui, tout à fait, bien sûr.
À faire du passage d'âme ou alors à ouvrir son canal, à écouter nos guides et à le faire par l'intuition.
Oui, aussi.
C'est une solution.
C'est aussi une solution. De toutes les façons, il faut essayer. Et en fonction du résultat, eh bien, il faut...
On voit si ça marche ou pas.
Mais c'est souvent ça, hein. C'est un vaste champ d'investigation, en fait. Hein.
C'est comme tout, il faut tester.
Voilà.
Tout à fait. Et donc, j'ai une dernière question à te poser par rapport aux enfants dont on parlait. Tu nous disais que tu voyais ça par rapport à leurs dessins.
Oui.
Alors moi, j'ai une question à te poser par rapport à l'analyse de tes dessins. C'est-à-dire que tu vas les analyser comme on apprend à analyser un dessin en psychologie, ou est-ce que tu l'analyses comme un support ?
Alors, je ne cherche pas à analyser, justement.
D'accord.
Par contre, ce qui est important, c'est de créer un espace d'expression pour l'enfant, dans lequel il puisse se manifester et dans lequel il puisse être compris et non jugé.
Et tu lui demandes de dessiner quoi ? Ce qu'il veut ? Est-ce que tu donnes un thème ?
Non, je ne donne aucun thème et je lui demande d'exprimer, s'il le souhaite, ce qu'il ressent ou comment il pourrait le visualiser ou exprimer ce qui peut le déranger.
Poser sur papier ce qu'il y a à l'intérieur
simplement.
De lui.
Oui, oui.
Et qu'est-ce que tu vois dans ces dessins ? Il y a des choses qui reviennent en général ? Ne serait-ce que pour aider éventuellement les parents qui peuvent avoir des enfants comme ça chez eux ?
Alors, oui, la récurrence, en fait, on va dire, ce sont souvent des enfants qui vont exprimer, hein, qui la plupart du temps expriment, mais ils n'ont pas toujours le cadre où ils sont entendus.
Oui.
Voilà. Parfois, le parent aussi peut avoir peur parce qu'il ne comprend pas non plus. Donc, ça peut couper aussi cette communication. Mais après, en la matière, il n'y a pas, c'est très large en fait. Chaque enfant va exprimer le fait qu'il voit, qu'il entend, qu'il peut décrire visuellement, mais ça va être différent suivant les enfants. Voilà.
Oui, le conseil qu'on peut donner aux parents, c'est d'être à l'écoute de ce que peuvent dire les enfants.
Bien sûr.
Et de les aiguiller le plus tôt possible.
Oui, et ne pas considérer que c'est l'imaginaire. En fait, pour ma part enfant, les objets bougeaient dans ma chambre. Mmh. Et je me souviens très bien que je disais à mes parents, mais c'est pas possible, ma poupée a bougé. Et du coup, je prenais un centimètre et je mesurais pour être sûre que moi-même, je ne créais pas ça, en fait. Et toutes mes poupées partaient comme ça à la cave, de façon systématique, parce que la solution, c'était pas... d'être écouté, c'était on enlève la poupée, il n'y a plus de problème.
Oui.
C'est pas ça, en fait.
Le problème, c'est pas la poupée, en fait.
Voilà. Mais pour expliquer que c'est pas toujours forcément bien compris, effectivement, parce que c'est pas su non plus.
Ouais.
Voilà. D'où l'intérêt de communiquer sur le sujet.
Et de ne pas...
Et de ne pas rentrer dans les peurs.
Diaboliser, ouais. Voilà. L'enfant, tout à fait. Ou ce qu'il peut dire, ou l'adolescent aussi. Il y a aussi des ados qui peuvent... chercher à s'exprimer d'une certaine manière et ça peut donner des réactions violentes à ce moment-là de la vie.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait.
Bien, merci Eléa pour toutes
merci, Marion.
Ces réponses sur la potentialité. Avant de clôturer cette émission, je vous propose une dernière page musicale. Sacred Spirit, Nahana, sur Radio Centrafrique. C'était Sacred Spirit, Nahana, sur Radio Centrafrique. Donc aujourd'hui, dans On parle de tout et surtout de ça, avec Eléa, nous avons parlé de la médiumnité, nous avons appris beaucoup de choses. Pour ceux qui ont raté l'émission, j'espère que vous pourrez l'écouter en podcast. Sinon, nous avons expliqué que la médiumnité était une capacité, que être médium nous permettait de capter des messages, des entités qui se trouvent sur d'autres plans, qui passent à travers un canal. C'est bien ça, Eléa ?
Oui, tout à fait. J'explique en résumé, bien, en c'est résumé, très bien.
Que les personnes qui ont cette capacité médiumnique sont en général plutôt sensibles, que ça commence de plus en plus tôt.
Oui.
Souvent, maintenant, les enfants ont quand même cette capacité. Donc, pour les, parents, pour les parents qui nous écoutent, surtout, restez à l'écoute de votre enfant pour pouvoir l'aider le mieux possible dans ce chemin qui n'est pas toujours évident.
On n'a pas précisé, je le fais vite, vite.
Bien sûr.
L'enfant est encore dans un champ, en fait, dans le champ d'un autre plan. C'est-à-dire que lorsqu'il s'incarne, en fait, lorsqu'il vient s'inscrire sur le plan de son incarnation.
De la matière, dans le monde.
Dans le monde, il est encore en lien pendant au moins une bonne dizaine d'années, avec ces possibilités-là, qui peuvent ensuite, par la suite, en fait, s'amoindrir ou pas.
D'accord. En fait, c'est comme s'il était...
Il arrive et il a encore cette préconfiguration, en fait, à l'intérieur de lui.
Il est un peu dans deux mondes.
Voilà.
D'accord. Oui, donc ce qui...
Tout comme les personnes âgées, parfois, ressentent des présences de parents qui viennent les chercher à leur chevet. Hein.
Oui, c'est
vrai. Voilà, tout simplement.
C'est un passage.
Mais nous sommes sur un passage. Voilà.
Ça peut être le thème d'une autre émission.
Oui, tout à fait.
On en parlera vraiment bien plus profondément. Alors, en tout cas, Eléa, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Oui, merci, Marion.
Et je voulais savoir, comment fait-on si on veut une séance avec toi ?
Ah, très bien. Donc, les consultations se prennent sur rendez-vous. Mmh. À ce moment-là, il faut me joindre à mon numéro de téléphone, qui est le 06 67 06 66 20. Et mes consultations se donnent sur Albi, sur Paris et sur Bordeaux.
D'accord. Alors, je veux bien que tu donnes une deuxième fois, un peu plus lentement, ton numéro de téléphone pour que les personnes puissent le noter.
D'accord, très bien. Alors, le 06 67 06 66 20.
Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter le numéro, il y aura probablement possibilité d'écrire ton numéro dans le podcast de l'émission sur le site Radio Centrafrique.
D'accord, très bien, entendu. Parfait.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à toi, Marion.
Encore une fois, de tout ce que tu as partagé avec nous. J'espère que ça a éclairé les personnes qui ont écouté cette émission, que ça a aussi aidé de se dire que oui, quand on ressent des choses, c'est pas parce qu'on est fou, c'est que simplement on est ouvert sur d'autres plans.
Complètement.
Pour toutes les personnes qui ont encore des questions, n'hésitez pas à appeler Eléa. N'hésitez pas éventuellement à appeler la radio pour demander Marion, donc moi-même, et avoir des explications dessus. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous aiguiller. Maintenant, je vous laisse avec le générique de l'émission. Et je vous dis à très bientôt sur On parle de tout et surtout de ça à Radio Centrafrique. On parle,
on parle,
on parle,
on parle,
on parle,
on parle de tout,
de tout,
on parle de tout,
c'est fou, non,
de tout,
et surtout
de ça.